Bonjour, j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui la lecture de quelques extraits du dernier ouvrage de la philosophe Émilie H., De la génération, enquête sur sa disparition et son remplacement par la production, qui vient de paraître aux éditions La Découverte dans la collection Les empêcheurs de penser en rond. Je vais vous lire quelques extraits de l'introduction pour vous donner envie de lire la suite. Toute société a besoin d'un passé, il n'y a pas de nous sans son mythe de création. Or, poursuit Illich, la machine qui tissa le passé de la société industrielle, c'est l'histoire. Tout au long du XIXe siècle, elle a déroulé son propre mythe de création, modifiant notre origine géographique, notre place dans la chaîne des êtres, au sein des autres peuples, comme notre mode d'appartenance à notre Dieu. Nous nous sommes dotés d'un mythe alternatif à celui de provenance biblique, en reculant nos origines du Proche-Orient jusqu'en Inde. Nous nous sommes exceptés du règne animal et de la chaîne alimentaire du vivant en nous considérant uniquement comme des prédateurs et non plus comme des proies. Nous nous sommes découverts à l'origine de la révolution néolithique, autrement dit de la civilisation. Et nous estimons hérités de la seule religion ayant réussi à se séculariser et à avoir accouché de la modernité. Tout à la fois mythe d'auto-engendrement, arrachement au monde sensible et histoire de progrès, ce mythe exceptionnaliste a été inventé mille fois et en mille lieux sur des périmètres différents. Et cette plurivocité, comme son habitude de se cacher derrière un exceptionnalisme humain, au-delà de la seule société industrielle, le rend particulièrement robuste. Doté de ce mythe de création racontant un long processus d'arrachement à la nature, notre société industrielle ignore son propre passé, ne sait pas d'où elle vient, ni à quel monde elle appartient. Aujourd'hui que la catastrophe écologique nous montre l'envers de ce mythe exceptionnaliste, partout des extinctions sous des promesses d'abondance infinie, la question de savoir sur quel sol cette société s'est fondée se pose de manière brûlante. Notre société industrielle appartient à un monde qui a oublié qu'il avait besoin de se reproduire pour exister. Un monde se considérant sans limite parce que croyant reposer sur des réserves infinies d'énergie, de terre ou encore de bras. Difficile de tracer un contraste plus grand avec les sociétés de subsistance qui l'ont précédé, où la question de la génération était centrale. Les puissances génératives et régénératives, humaines et extra-humaines, comme leur répartition, sont ici au cœur de leur fonctionnement et de leurs préoccupations. Loin, très loin de nos sociétés humaines où la génération est devenue une charge, par définition féminine. La raison, le handicap plutôt, pour laquelle les femmes sont considérées comme inférieures aux hommes depuis des siècles et de manière générale, une aptitude dont il s'agit moins de prendre soin que de s'approprier et décupler sans limite. L'arrachement à la nature que raconte notre mythe de création a pour envers un rejet des pratiques d'engendrement que nécessite la perpétuation du monde. Devant le risque de plus en plus important de ne plus pouvoir reproduire ces conditions d'habitabilité, la question que nous devons nous poser est la suivante. Comment en sommes-nous venus à désirer nous émanciper de ces pratiques génératives et quel rôle les rapports de genre ont joué dans cette histoire? C'est ce passé oublié que j'ai cherché à reconstituer en tentant de faire la généalogie de la disparition du paradigme de la génération et de son remplacement par celui de la production dans notre société industrielle. Héritière d'une histoire européenne occidentale ayant choisi de faire de la Grèce antique le berceau de la civilisation, privilégiant à ce titre cette tradition littéraire et philosophique sur toutes les autres, je me suis intéressée à des rituels grecs, faisant partie donc de notre culture savante. Or, ces derniers ont montré une chose très étrange, la délégation aux femmes de la génération du monde, humain et plus qu'humain, comme si cette question ne concernait qu'elles. On a du mal à s'en apercevoir tant nous sommes habitués à un tel réductionnisme, alors que cela ne va en réalité pas du tout de soi. Qu'en est-il de la génération masculine, de la génération des morts et des ancêtres? Ces conflits de générations à l'œuvre dans le monde grec disparurent dans le monde chrétien. Le passage, ou plutôt la mutation d'un monde non créé dont il faut prendre soin et renouveler chaque jour à un monde créé, a radicalement changé notre rapport à la dimension générative du monde. Dans un monde créé une fois pour toutes, il n'y a pas besoin de se préoccuper de le reproduire, la Providence se charge de tout. Autrement dit, ces conflits de génération disparurent parce que la génération elle-même, en tant que paradigme, disparut, recouvert par celui de création. La disparition de la dimension féminine du divin dans les monothéismes demandait à recevoir enfin l'attention méritée, mais je ne l'attrapais pas par le bon bout. C'est lorsque j'ai compris que cette enquête portait sur la dimension générative du monde que ce nœud s'éclaircit. Le christianisme avait remplacé la génération par une autre forme d'éternité, le salut. La génération bascula alors du côté de la corruption, physique et morale. Elle commença à être dénigrée et fut identifiée aux femmes, en rivalité avec le Dieu unique, masculin, prétendant prendre en charge la véritable régénération du monde.
Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.